Louis Souter dispose d'un héritage culturel, notamment artistique, qui l'épanouit. C'est un grand maître. Si vous venez du côté de l'art brut, on vous dira plutôt que Souter, c'est celui qui, justement, a refusé cet héritage. C'est un subversif, c'est quelqu'un qui n'est pas indemne de culture, c'est sûr, mais qui n'a pas voulu de cette culture-là, qui l'a considérée comme carcérale et qui a recommencé sur de tout autres bases que les bases culturelles. Louis Souter s'est engagé dans le dessin comme dans une aventure qu'il ne maîtrisait pas et dont il attendait précisément qu'elle le conduise dans l'inconnu, dans des zones dangereuses, dans des zones où les artistes ordinaires, si je puis dire, ne vont même pas volontiers. Ce qu'il attend du dessin, c'est une perte de contrôle. Ce qu'il attend du dessin, c'est que ça le conduise à formuler graphiquement quelque chose qui vient peut-être du lointain intérieur, mais qui en même temps vient du mystérieux extérieur. C'est un homme qui, n'ayant pas d'imagination, a remplacer son imagination par cette feuille de papier recouverte de lacis d'encre qui tout d'un coup lui a procuré des visions puissantes et lui a appris sa propre vérité.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Louis Souter, bien qu'il soit, comme le dit l'historien de l'art Michel Thévoz, l'un des plus grands dessinateurs du XXe siècle, demeure toujours largement méconnu du public. Et parce qu'il était, de son vivant, considéré comme fou, et qu'il fut, après sa mort, sauvé de l'oubli par Dubuffet, Souter fut trop hâtivement classé parmi les autodidactes de l'art brut. En réalité, cet homme tourmenté, parfois délirant, autodestructeur, et qui passa 20 ans dans un asile pour nécessiteux dans le Jura vaudois, était en fait un artiste accompli, nourri de peintures classiques, d'architecture et de musique, violoniste talentueux. Mais c'est dans ce mouroir misérable où il s'éteignit en 1942 qu'il produisit ses œuvres les plus singulières, réalisées au doigt et à l'encre noire. À Paris, nous avions pu découvrir Souter en 2012 lors d'une exposition du collectionneur Antoine de Galbert, organisée dans sa si belle Maison Rouge, hélas, fermée depuis. En 2015, la Maison Victor Hugo, place des Vosges, eut l'excellente idée de confronter les dessins du poète à ceux de l'artiste suisse méconnu, nous donnant ainsi à voir, de façon troublante, ces deux plongées dans le plus noir de la nuit humaine. Et c'est là qu'Éric Vuillard a rencontré l'univers tragique de Souter, ce maelstrom de souffrance dans lequel l'écrivain a vu l'écho démiurgique d'un monde en train de basculer dans l'horreur. Éric Vuillard vient de préfacer le catalogue d'une splendide exposition des dessins de Louis Souter qui se tient à Paris à la galerie Carsten Greve jusqu'au 12 octobre. Bonsoir Éric Vuillard.
Bonsoir.
On vous connaît comme écrivain de ces moments convulsifs de l'histoire des hommes, que ce soit les révoltes des pauvres au Moyen-Âge, la montée du nazisme, les ravages de la colonisation. Et là, on vous retrouve en préfacier, d'abord de Louis Souter, on parlera un petit peu plus tard d'une autre exposition dont vous préfacez le catalogue, et moi, je me dis, en vous lisant, que ce sont presque deux métiers différents. Bien sûr, l'écriture, mais écrire sur vos propres histoires, c'est inspiré par l'histoire des hommes, et écrire sur la peinture, il y en a un qui est forcément plus difficile que l'autre, non ?
J'en sais rien. Enfin, c'est pas en termes de difficulté. En tout cas, c'est d'abord, finalement, pour moi, une histoire un peu conjointe. C'est-à-dire, c'est jeune, mes parents avaient des petits livres de peinture, des sortes de un petit peu comme les classiques Larousse pour la littérature. Et donc, je les feuilletais. Il y a quelque chose d'assez énigmatique au fond dans la peinture, puisqu'elle est, elle est sans discours ou presque sans discours. En tout cas, elle est muette. Et c'est cette, je pense, ce savoir muet qui m'a requis comme ça dans l'enfance, d'une façon naïve au fond, je regardais. Et puis c'est la façon dont une subjectivité comme ça s'imprime directement, de façon presque flagrante. Alors évidemment à travers des époques et des styles, mais enfin tout de même, c'était cette flagrance-là, je crois, qui me touchait.
Mais vous dites histoire muette, Éric Vuillard, donc ça veut dire que pour écrire sur l'œuvre d'un artiste, il faut que ça vous parle directement à vous, à votre propre histoire personnelle, à votre sensibilité. Donc ça veut dire certains artistes, pas d'autres. On en arrive à Louis Souter qui est pas un artiste simple. C'est un artiste sombre, noir, tourmenté. Et là, on retrouve l'écho avec vos propres sujets d'écriture.
Alors, c'est, de ce point de vue-là, je pense que c'est un petit peu comme la littérature. On rencontre de façon d'abord contingente, au fond, un auteur, un artiste, et puis, bon, il y a une sorte de cheminement qui se fait. Quelquefois, on peut l'oublier un temps, et puis on le retrouve. Alors, pour Souter, c'est un ami libraire, Laurent Évrard, qui me l'a fait connaître il y a une vingtaine ou 25 ans à peu près. Mais c'était à l'époque ce qu'on appelle la période maniériste de Souter. Il m'avait montré de ses dessins un peu érotiques, très surchargés, enfin, toute la feuille est occupée, saturée comme ça de présence féminine. Et ça, c'était pas ce qui m'avait le plus touché. Ça m'avait intéressé, mais ça ressemble au dessin de Cubine, enfin ce genre de choses. Et puis plus tard, je sais plus trop quand, au fond, je suis tombé sur la peinture à doigts, donc ces figures beaucoup plus concentrées de Souter et qui là m'ont tout de suite attiré. Enfin là, comme je le disais, il y a quelque chose d'énigmatique, de troublant, un trouble qu'on a du mal à traduire. Et c'est en écrivant donc un de mes livres, L'Ordre du Jour, que Souter est venu, enfin a fait une intrusion dans ce qu'on appelle une digression, où évoquant, donc c'est un livre qui évoque l'entre-deux-guerres, tout à coup cette peinture de Souter qui au fond est contemporaine, donc puisque c'est à partir de 1937 que Souter se met à peindre avec les doigts ces figures qui sont comme de grandes silhouettes obscures qui semblent danser sur l'horizon, une sorte des figures macabres au fond, qui forment des farandoles un peu sinistres comme ça, mais sont venues dans l'écriture, s'y sont insérées, ont été comme une sorte d'image au fond, de l'écho peut-être que cette époque pouvait avoir dans la conscience d'un artiste. Donc c'est d'abord sous cette forme-là, et ensuite vous évoquiez tout à l'heure l'exposition de 2015 à la maison Hugo, et cette étrange alors confrontation face à face des dessins de Hugo et de Souter, alors qui m'a beaucoup intéressé puisque il y a un rapprochement qui n'est pas évident, d'abord de période et puis de personnalité au fond. Hugo, c'est d'abord avant tout un écrivain, Souter est avant tout un peintre et aussi un musicien. Et en regardant cette exposition, il m'a semblé qu'ils échangeaient leurs qualités en quelque sorte. C'est-à-dire que là où Hugo apparaît comme une sorte de massif littéraire, de personnalité ultra socialisée, puisque c'est à la fois un homme politique, il représente en quelque sorte la France en exil, enfin vous voyez, c'est tout le contraire de la figure marginale, discrète, internée même de Louis Souter. Et puis par ailleurs, à l'inverse, Souter est un peintre professionnel d'une certaine manière, alors qu'Hugo, pour lui, la peinture est une sorte de passe-temps. C'est comme ça en tout cas qu'on le voit. Du coup, on juge sa peinture comme, au contraire, dans l'activité générale de Victor Hugo, dans la grande circulation de signification qu'a été Victor Hugo, une activité finalement, elle, marginale. Et en les voyant finalement face à face, ce qui frappe, c'est les sortes de ressemblances, d'apparentements, au fond, qui sautent aux yeux, je trouve, qui m'ont sauté aux yeux en tout cas pendant l'exposition. Et il m'a semblé du coup qu'ils inversaient leur qualité. C'est-à-dire que l'impression de folie, de délire qui domine la peinture de Souter, c'est pas qu'elle s'apaisait, mais elle était apparaissait derrière aussi l'histoire de l'art, apparaissait, je sais pas, Philippien Rops, apparaissait Vlaminck, apparaissait les fauves, apparaissait, et du coup ça assagissait en quelque sorte Souter, ça le normalisait. Hugo était une sorte de brevet pour Souter de comportement socialement, disons, normal, puisqu'Hugo lui incarne la société tout entière. Et d'un autre côté, ce qui était aussi intéressant, c'est que à l'inverse, le côté, disons, très romantique des dessins de Hugo apparaissait davantage comme un tourment intérieur. L'espèce de, comment dire, de présence subjective flagrante qu'il y avait chez Souter contaminait Hugo. Et Hugo aussi, donc, bénéficiait de ça. Et puis, par ailleurs, en visitant la maison d'Hugo, on s'en rend compte, mais on voyait bien que chez Hugo, il y avait une sorte de folie socialisée, hyper socialisée, mais une sorte de délire, lui aussi. Alors, je sais bien, Lacan dit que tout le monde délirait.
Mais en les comparant, on se rend bien compte aussi que c'est, enfin, ce qu'on appelle la bouche d'ombre, hein. On pense aux encres de Goya aussi, c'est pareil. Ce sont des rêveries, morbide, halluciné, c'est aussi ça le tempérament de ces artistes aussi dissemblables que Hugo et Souter. Il y a quelque chose qui remonte des temps anciens, presque des cavernes de la préhistoire.
Oui, j'ai eu l'impression beaucoup en écrivant le texte sur Souter, c'est au fond, par l'écriture, tenter de la penser d'une toute autre manière que lorsqu'on y réfléchit simplement. Quelque chose arrive par l'écriture qu'on n'avait pas saisi au départ. Et ce qui s'est imposé, au fond, ce sont les mains, la forme des corps, mais surtout la forme des mains. Normalement, dans la peinture, il y a toute une histoire des mains, une histoire très savante. On connaît évidemment les croquis de Vinci, magnifiques, mais ce qui m'a frappé en regardant Sous Terre, c'est qu'il est à l'antipode de ça et que finalement, il peint autre chose. Il peint des mains qui ne sont plus les mains de l'Homo Faber. Il peint des mains qui ne sont plus utiles. Et ce matin, là, dans le train en y pensant, je ressongeais à un livre d'Henri Michaud qui s'appelle Bras cassé, où Michaud se casse, je crois, le bras droit. Il peut plus écrire, il est droitier. Et donc, il fait la découverte de son être gauche. Et à ce moment-là, donc, il parle de cet être, de cette part de l'être qui est malade, par maladroite, qui n'a pas été domestiqué, qui est peu socialisé. Bon, peu importe que ce soit vrai ou non, d'ailleurs, puisqu'on sait que la main gauche est un point d'appui très socialisé. Mais au fond, cette idée-là m'a fait réfléchir. Sous Terre, sa façon de peindre les mains, il y a quelque chose de cet ordre, il y a une sorte de régression presque d'avant les études anatomiques, d'avant l'utilité.
Alors, je le disais tout à l'heure, pour moi, personnellement, c'est en 2012, à la Maison Rouge, que j'ai découvert Sous Terre grâce à Antoine de Galbert. On va l'écouter justement parler, à ce moment-là, de cet artiste qu'il a collectionné très vite.
C'est une notion qui n'est pas très courant dans l'art d'aujourd'hui ou chez les gens qui parlent de l'art, mais il y a une sorte de nécessité absolue. On sent presque un vomissement, c'est-à-dire on n'a pas le choix, on décide pas d'être artiste, on est là et il faut, ça sort quoi, ça sort et on a l'impression de l'œuvre d'un photographe ou d'un cinéaste, c'est-à-dire que on a l'impression que ces œuvres pourraient continuer comme ça sur des feuilles beaucoup plus grandes et que on a capté comme ça un rectangle et ces compositions sont des non-compositions en fait. C'est-à-dire que c'est un focus sur une foule, sur des personnages. Les têtes sont parfois coupées. On a la sensation qu'ils s'occupent plus de rien en fait. On a la sensation que tout est là. Directement entre la tête et le papier. Mais il y a une telle souffrance, une telle passion, c'est un travail tellement corps et âme qu'on a cette sensation de plénitude d'une œuvre. Et moi, c'est ça qui me fascine totalement. Et entre autres, les crucifixions, on a la sensation, non pas qu'il touche le papier avec ses doigts enduits d'encre ou de peinture, mais qui touche le corps du Christ. C'est-à-dire, on a la sensation d'un miracle de la création. Et je n'exagère pas, et c'est extrêmement rare dans l'histoire de l'art et de la peinture de sentir cette intégrité et cette présence physique et mentale. Enfin, c'est vraiment pour moi ce qu'on appelle une œuvre.
Éric Vuillard, Antoine de Galbert, évidemment, est plus attiré par ses peintures de la fin de la vie de Louis Sous Terre. Il y a, ce qui est assez étonnant chez cet artiste, c'est qu'il y a plusieurs Louis Sous Terre. Il y a le début quand il peint, il est encore assez lié à ses études, aux beaux-arts et l'architecture. Ce sont des peintures assez conventionnelles, assez bourgeoises. Et puis ça commence à dérailler, quand lui-même commence à dérailler, il peint des portraits qui mettent mal à l'aise les gens qui les regardent quand il est exposé, notamment dans les expositions annuelles en Suisse, aux Beaux-Arts. Le public n'est pas content. Et ensuite, il rentre dans cet hospice très tôt. Il a 52 ans, en 1923. Il est interné. Et là, il dessine sur des carnets une période de hachure, des portraits maniéristes. Et puis, c'est tout à la fin de sa vie, sur le point de mourir, vraiment, qu'il y a ce dont parle Antoine de Galbert, ces vomissures sur le papier, ces peintures noires avec le doigt, avec le corps entier. Donc, il y a des gens, comme Le Corbusier, qui était le cousin de sa mère, qui aimait mieux les premières peintures, qui ensuite ont eu du mal avec les deuxièmes, alors que Dubuffet préférait. C'est très difficile d'aimer la totalité de la production de cet artiste.
Alors, d'une certaine façon, le fait qu'il ait eu plusieurs époques très marquées, en effet, je trouve atteste du fait que précisément, ça n'est pas de l'art brut, que c'est un peintre. C'est-à-dire, Sous Terre a véritablement appris à peindre, et on le voit, son œuvre épouse en quelque sorte aussi les crises de l'histoire de l'art elle-même. C'est-à-dire, comme tous les peintres, notamment les peintres du 19e et du 20e siècle, il a une forte conscience de l'histoire de l'art. Donc ça, c'est un point, je crois, important. Et justement, il me semble qu'à la fin, il y a une sorte de basculement, que c'est lié tout de même, au fond. C'est ce que montre justement le côte à côte avec les œuvres de Hugo. Il y a une conscience de l'histoire de l'art à la fin même. Mais un certain nombre de contingences, l'arthrose, je crois qu'il perd en partie la vue, font que tout à coup, vraiment démuni, il lui reste plus grand-chose pour peindre. Et ce qui lui reste, ce sont ses doigts, un peu d'encre, et les papiers qu'il récupère un peu, je crois, dans les poubelles, ou alors que des amis, Jean Giono, lui en amènent de meilleure qualité, etc. Et de fait, il en quelque sorte, il réinvente une sorte de peinture qui est hors de tout usage. Au fond, c'est-à-dire, il trempe ses doigts dans l'encre seulement et il se met à dessiner. Et là, sa peinture change considérablement puisque, au fond, dans la période qui précède, la période maniériste, il y a tout de même quelque chose de la peinture, de l'art brut tel qu'on le connaît, c'est-à-dire de dessins où la feuille est entièrement saturée, occupée, comme ça, par l'impression plus d'une hantise. Alors que là, brusquement, au contraire, sa peinture se condense, se resserre sur ces figures obscures, là, qui étaient très bien décrites. Et je partage tout à fait cette impression de quelque chose de très, très incontestable, très effusif, au fond, et qui est effectivement rare et qui donne un sentiment d'intégrité. Bon, il faut dire qu'il l'a payé cher.
Alors, évidemment, il y a certains artistes qui se sentent à une proximité, sinon une parenté, mais plutôt une proximité avec Louis Souter. C'est par exemple quelqu'un comme Christian Boltanski, qui, on sait, a beaucoup travaillé sur les Suisses et qui lie souvent le fait d'être fou au fait d'être suisse. On connaît bien le regard assez ironique de Boltanski sur la société. On va l'écouter en 97 évoquer Louis Souter.
J'ai toujours beaucoup de mal à voir la frontière entre les artistes qu'on appelle de l'art brut et des artistes de mon genre. Et je ne sais jamais trop où ça s'arrête et où ça commence. Il y a plusieurs différences. Il y a une différence, effectivement, c'est que des gens comme Souter sont sans doute moins datables. Je veux dire que et spécialement pour d'autres, je pense à Aloïse ou à Wolfli, sur lesquels on ne peut pas les dater. Ils ne s'inscrivent pas directement à l'intérieur de l'histoire de l'art, comme, je ne sais pas, Paul Klee, pour prendre un autre artiste suisse. Et donc, c'est des gens qui sont un peu comme ça, extérieurs à l'histoire de l'art, en tout cas, on peut difficilement les dater. Et puis aussi parce que je pense que pour eux, l'art est très, très important. C'est-à-dire que l'art est quelque chose qui est, par exemple, qui peut guérir celui qui regarde leur dessin. Quelque chose qui a une action sur le monde ou qui a une explication du monde. Nous, quand on est un artiste, c'est mélangé, il y a plein de paliers différents. Mais malgré tout, on sait que ce qu'on fait est de l'art. On sait que ce n'est que de l'art. C'est-à-dire que ce n'est que quelque chose qui souligne la réalité, qui n'est pas la réalité, mais qui est dans un domaine particulier qui est l'art. Et je crois que pour des gens comme Souter, ça dépasse beaucoup. C'est réellement l'explication du monde.
Explication du monde, recherche de Dieu. On entend Boltanski, Éric Vuillard, qui nous dit « Cet art-là a une action sur le monde ». Alors, le titre de l'exposition à la galerie Carsten Greve, « Les derniers dessins de Louis Souter », c'est un présage. Alors évidemment, vous avez écrit sur le fait que Souter, pour nous, avec notre regard contemporain un peu anachronique, on se dit, ben oui, il peint au moment où le monde bascule dans la folie du nazisme, où se prépare l'Holocauste, et donc c'est le basculement, un présage. Mais au fond, est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on peut penser, Louis Souter écrivait aussi, est-ce qu'il y avait un écho de ce qui était en train de se mettre en place à sa porte?
Alors, ce sont toujours des questions difficiles. Enfin, dans le catalogue, il y a un texte de Thévoz qui porte justement sur ce point. Je crois qu'il parle d'une sorte d'écho, mais à rebours, en quelque sorte. Alors, quand j'ai écrit le texte, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est un livre qui porte sur le rêve sous le Troisième Reich de Charlotte Béra. Et je me suis dit, au fond, d'une certaine façon, les événements politiques, aussi dramatiques, traversent les consciences. On peut donc tout à fait imaginer que Souterre, comme n'importe qui, au fond, a été une chambre d'écho à ce qui se passait. Alors, à quel point il pouvait suivre l'information, savoir, être au courant, ça je l'ignore. Mais on peut tout de même se dire que, tout comme le Troisième Reich a fait cauchemarder un certain nombre de gens, enfin, et a surtout donné une nouvelle morphologie au cauchemar, elle rapporte le rêve de quelqu'un qui tout à coup est chez lui et il n'y a plus de mur, donc tout ce qu'il fait est absolument visible, contrôlable, etc. Bon, donc on voit bien qu'il y a une structuration comme ça à la fois de nos cauchemars, de la folie par l'histoire. Eh bien, on peut imaginer que d'une certaine façon, tout comme là encore d'ailleurs, comme le monde onirique dramatise, est inquiet, il a une façon particulière de recevoir, de sentir de d'une certaine façon, du coup, d'apparaître comme un présage. C'est-à-dire, il est possible que les gens aient fait des cauchemars plus dramatiques au départ que la situation réelle ne l'imposait. Et de la même façon, là, je crois qu'on peut imaginer que la folie de Souterre, les formes un peu paranoïaques que pouvait prendre sa pensée, a en quelque sorte précédé la catastrophe. Et que, d'une certaine façon, sa peinture épouse le cours de l'histoire, qui aurait pu être autrement, mais qui là, du coup, à rebours, effectivement, nous semble en témoigner.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious, the women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble, it was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart?
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Je disais, l'attention que je porte à Souterre est proche aussi de l'attention qu'on peut porter à des reliques. Non pas à des reliquaires, mais à des reliques. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les reliques. Je vais regarder les petits morceaux d'eau. C'est marqué « petits morceaux de la barbe de Saint-Jean-Baptiste ». Je sais pas. Et dans les reliques, il y a toujours un peu de sang. Il y a quelque chose qui reste. Et les traces de vert, d'orange, elles sont très pauvres, comme quelque chose qui a saigné là, qui a saigné par là. C'est ce qui explique aussi que c'est un grand obsédé du crucifiement. Enfin, que tout d'un coup, il y a beaucoup de ces peintures qui s'arrêtent sur ce sujet. Oui, je me disais aussi, c'est comme cette peinture-là, plus qu'une autre aussi, et ce sont des traces, comme des traces animales, comme des traces qu'on voit dans la forêt, ou même comme ce que les chasseurs appellent des laisses, c'est non pour les excréments des ours qu'on trouve. Il y a quelque chose de quelqu'un qui est passé par là et qui a laissé ça. Donc s'il laisse du rouge... c'est aussi des traces de son sang, même si il peint pas avec son sang. Il n'a pas besoin de peindre avec son sang, mais c'est violent comme s'il peignait avec son sang. Parce que peindre avec ses doigts, y aller tout d'un coup avec les doigts, c'est très violent. le moment où on passe, je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a un interdit quand même. Tout d'un coup, avoir plus d'instrument. Parce que l'homme, est... on a un instrument et tout d'un coup, on quitte l'instrument et on y va directement. C'est une expérience violente.
Éric Vuillard, comme pour vous, c'est toujours intéressant d'écouter ce que les écrivains ont à dire sur la peinture. Et là, c'était Valère Novarina, poète, homme de théâtre, homme d'écriture, et qui dit des choses qui, évidemment, quand on l'entend, on se dit, bah oui, c'est une évidence. Il y a un côté sauvage. Alors lui, il parle des laisses laissées par les bêtes dans la forêt. Il y a ce côté corps à corps... presque sanglant de sous terre. On a l'impression, quand on regarde ces encres que l'on peut voir, je le rappelle, à la galerie Carstensgrève, il faut aller les voir, c'est comme si sous terre saignait sur ces toiles avec de l'encre noire. Quand on sait qu'en plus ce sont ses dernières œuvres, c'est ce qu'il met sur la toile avant de mourir, sur le papier, puisqu'il ne s'agit pas de toile en l'occurrence. C'est peut-être aussi ça qui nous touche infiniment dans ses œuvres de la fin de sa vie.
Oui, enfin, ce qu'on entend, enfin, à travers aussi la lecture biblique que Novarina en fait, lorsqu'il évoque les traces, ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure à propos de ce côté très, très abrupt, au fond, je crois, de sous terre, et qui me semble pour une parvenir, en tout cas, pour, dans ses dernières peintures, les peintures à doigts, de quelque chose qui, en tout cas, chez nous, suscite l'effroi. Et, aussi bien, il y a certaines choses qu'on peut peindre, au fond, assez facilement. En tout cas, disons qu'un paysage, a priori, peut se peindre de plein de manières. Mais l'effroi ne se représente pas, l'effroi ne se peint pas. Puisque c'est, au contraire, la peinture qui doit susciter, elle aussi, de façon comme seconde, au fond, cette impression. Ou alors, on doit avoir l'impression que les personnages le subissent. Alors, on en avait d'autres exemples à travers... vous parliez de Goya tout à l'heure. Les fusillés de Goya ont l'effroi dans les yeux, d'une certaine façon. Évidemment, Goya a peint l'effroi. Et puis, à travers tous ses dessins... également. Mais je crois que ce qu'on peut appeler figuration, peut-être, cette espèce de litige qui est à la fois donc persistant, renié, qui prend plein de formes entre ce qu'on appelle notre image, notre corps, notre silhouette, et puis l'épreuve d'un temps, le nôtre, la posture que la société impose. Et c'est ça, sans doute, que le peintre toujours peint. C'est-à-dire ce rapport de force, cette tension entre une image culturelle, des représentations culturelles, et puis autre chose. Et c'est peut-être, quand vous évoquiez tout à l'heure la situation historique, au fond, autour de sous terre, en a-t-il eu conscience, de quelle façon, etc. En tout cas... ces peintures à doigts de sous terre figurent en quelque sorte un corps moderne, problématique, un corps qui est hanté par la mort. Il y a une sorte de mort annoncée dans ces corps. Et c'est la figuration de sous terre, enfin la façon dont sous terre figure le corps, c'est je crois ça qui nous donne, du coup rétrospectivement, ce sentiment que s'y illustrerait, ou en tout cas il y aurait l'écho de quelque chose de son temps. Et c'est je crois le cas pour la chambre de Van Gogh, d'une certaine manière, est elle aussi le litige entre un certain nombre d'images, etc. Et puis, au contraire, l'épreuve de Van Gogh lui-même, disons, et elle, aujourd'hui, elle fixe en quelque sorte à jamais ce qu'une chambre modeste, etc., à cette époque, figure, en quelque sorte.
Mais d'ailleurs, vous parlez de ces corps qu'il dessine, qui sont des corps tourmentés, des corps réduits à leur ombre. En fait, le corps lui-même de sous terre, il faut regarder cette photo de 1937 qui est dans le catalogue édité par la galerie Carstensgrève. Cette photo de sous terre, c'est un sous terre. C'est-à-dire que il était probablement anorexique, il punissait son corps par des marches incessantes, il était d'une maigreur, mais en même temps d'une beauté, d'une statue de Giacometti. Enfin, c'est un Giacometti sous terre, il est maigre, il est raviné, il est d'une élégance décati, parce qu'il portait de très beaux vêtements très abîmés, et en fait, l'explication de cette peinture, elle est aussi sur le personnage sous terre, c'est très frappant.
Oui, alors sur ses vêtements, tout d'abord, on sait qu'il a gardé un goût pour des vêtements un peu luxueux, alors que donc il était très dispendieux. Ça a été une des raisons
de son internement.
De son internement. Et puis il y a cette trajectoire à la fois dramatique et curieuse, où c'est donc il est premier violon d'abord de plusieurs formations importantes, et puis il va finir comme violoniste dans des thés dansants ou pour des touristes. Bon, et quelque chose s'est inscrit de toute cette trajectoire d'une certaine manière dans le corps de sous terre. Il me fait toujours songer penser à Robert Walser, qui avait un peu le même type, en tout cas, de goût et d'attitude. Je crois me souvenir, dans les promenades avec Robert Walser de Carl Selig, qui était son éditeur et qui raconte, donc, aller le voir à l'asile, où lui aussi a été interné très longtemps, que Walser le raccompagne à la gare, et arrivant à la gare, lui propose de monter dans le train pour le raccompagner. Alors, c'est un peu curieux, donc Selig lui dit, bah non, Et donc, il reste plusieurs arrêts, il discute, et puis au bout de 3 ou 4 arrêts, il finit par descendre, et il met ensuite 2 jours à rentrer à l'asile.
Alors, il y a aussi un rapport étrange de Souter, qui a été marié, a divorcé, ne voulait pas d'enfants, a été amoureux plusieurs fois. Il a un rapport étrange aux femmes, quand même. Beaucoup de ces encres qui sont exposées nous montrent des femmes qui ressemblent à des déesses maléfiques. Elles sont torturées, elles ont des bouches gigantesques qui risquent d'avaler presque ceux qui les regardent. On sait qu'en Suisse, il était traité de fou pornographe. Évidemment, la Suisse n'est pas un endroit où on peut exposer impunément ce genre de choses. Mais on va écouter quand même Mali Geneste, qui travaille au Musée des Beaux-Arts de Lausanne, qui connaît bien l'œuvre de Souter. Et tout de suite après elle, après ce qu'elle dit de ses peintures, il y a le propre texte de Souter sur les femmes.
Là, il y a une représentation, en fait, de la tentation de la femme qui est vécu comme quelque chose de terrifiant, de terrible. L'évocation même de cette tentation nous repousse. On n'a pas du tout envie d'être en contact. Les coups ondulent, sont extrêmement longs, comme des serpents. Les cheveux, toute la chevelure est ondulante. Là, quand on voit la bouche de cette femme, on voit les dents de façon exagérée. La bouche est immense, on a l'impression qu'on va être dévoré. Les yeux, les paupières fermées, mais très globuleux. Là, elles ont toutes des bouches assez importantes, mais seules, on voit cette mâchoire, les poitrines offertes, enfin vraiment dégagées. Mais c'est vraiment surtout les cheveux, le lacis des chevelures totalement enchevêtrées, liées les unes aux autres, inextricables aussi, comme la futaie qu'on voyait là. Il y a quelque chose d'angoissant dans ces visages de femmes.
Grâce aux fortes formes, les belles se montrent, deux seins presque difformes, des membres délicats qui rentrent, tordus est l'une des leurs, au milieu du groupe, soulève de ses yeux de peur le pli qui s'arc-boute. Couché de soleil, levé de lune jusqu'au réveil.
Voilà, ce sont les propres mots de Souter. C'est vrai que ces encres, il y a beaucoup de femmes tordues dans tous les sens. Il les appelle nymphes, mais elles sont terrifiantes. Éric Villard.
J'ai le sentiment qu'il y a deux composantes, au fond. Il y a tout d'abord une composante de hantise personnelle, là, qu'on entendait très bien dans le passage, et puis une composante sociale, puisque chez Rops, chez les fauves, finalement, on retrouve le même type d'ambivalence, de rapport contradictoire à la femme, qui est, je pense, la marque d'une époque, enfin, pour les hommes, évidemment. C'est-à-dire, au fond, sans doute, une femme qui est en train de se libérer et qui, dans le même temps, est menaçante, inquiétante. C'est donc ça, je crois, qui est inscrit. C'est, pour être tout à fait sincère, ce n'est pas ce que je préfère dans l'œuvre de Souter.
Voilà, donc il faut absolument aller à cette galerie Karstengreve à Paris, à côté du Marais. C'est une exposition que vous pouvez voir jusqu'au 12 octobre. Si vous ne connaissez pas Louis Souter, je vous assure, c'est une expérience intéressante à tenter. Et puis, comme Éric Villard est avec nous, on va en profiter pour parler d'une autre exposition qui commence en ce moment, qui est, elle, à Paris, 17 rue Jacob, à la librairie Métamorphose. 3 artistes que vous m'avez fait découvrir, Éric Villard, Barrault, Montfleur et Tracandi, 2 peintres, 1 sculpteur. Et Barrault est un peintre que vous suivez depuis longtemps. Vous avez écrit la préface du catalogue.
Oui. En fait, je suis, je crois que ça doit être la 3e fois que j'écris sur la peinture de Renan Barrault, et aussi la seconde, je crois, sur la sculpture de Denis Montfleur. Pour Gérard Tracandi, c'était la première fois. Alors, c'était justement l'occasion de regarder leurs œuvres à chacun, et du coup de réfléchir autour d'elles à cette idée de figuration là que j'évoquais il y a un instant. C'est-à-dire que au fond, il y a par exemple une grande toile là dans le catalogue et qui est exposée à la librairie Métamorphose, qui s'appelle Pas de deux de Renan Barrault, et où on voit 2 silhouettes et qui évoquent ce qu'on a pu appeler les descentes de croix. Il y a une longue histoire de la descente de croix. quand on demande, je crois, à Roland Barthes, que peignez-vous, il dit « je peins des sujets de peinture ». Effectivement, la descente de croix est un sujet de peinture, ce qui signifie au fond qu'autour d'une certaine morphologie, d'un rapport de deux corps, et là aussi d'une scène en rapport avec toute une histoire religieuse, ont cristallisé progressivement des représentations culturelles. Et au fond, la figuration, c'est ça. Et là, dans la peinture de Roland Barthes, ce qui est tout à coup curieux, c'est que, au fond, se glissent des contradictions, des ambivalences. On se demande si le cadavre n'est pas vivant, et si, au fond, la personne qui le tient est si tendre et si délicate avec lui, si, au fond, ça n'est pas elle qui l'a tué. Enfin, se glisse à l'intérieur de cette figure ancienne et qu'on croyait connaître tout un tas d'autres rapports et qui sont liés, finalement, à la position moderne de l'homme, disons, on peut dire, parce que le freudisme nous a appris et beaucoup d'autres choses. Et c'est ça, je crois, la figuration, c'est qu'on se demande que fait le personnage de derrière, par exemple celui qui porte le mort, l'endormi. Et d'une certaine manière, cette peinture, tout comme la sculpture de Montfleur ou la peinture de Tracandi, nous oblige à choisir. C'est-à-dire, ce qui est nouveau, il me semble, dans cette forme de figuration, c'est qu'elle m'oblige, moi, à me dire, mais au fond, de quelle scène je suis responsable, de quelle crucifixion aujourd'hui je suis témoin.
Voilà, en tout cas, c'est toujours intéressant de découvrir des artistes contemporains, vivants. Il fait aussi beaucoup de portraits, très intéressants, parce que c'est très difficile de faire des portraits. Et là, contrairement à Souterre, il y a de la couleur. Voilà, Barthes, Montfleur, Tracandi, c'est le conseil d'Éric Vuillard à la librairie Métamorphose, 17 rue Jacob, jusqu'au 24 octobre. Merci infiniment, Éric Vuillard. Vivement un autre livre de vous, bientôt, j'espère.
C'est gentil, merci.
Bonne route, au revoir.